Le journal avec vous, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour.
Et l'actualité de ce lundi, c'est donc Nice, OM, l'Olympique de Marseille, hier soir, images affligeantes, projectiles, joueurs frappés, terrain envahi, sécurité défaillante. L'Olympique de Marseille a refusé de reprendre ce derby, faute de protection suffisante pour les joueurs. En attendant les recours, Marseille pourrait bien perdre sur tapis vert.
Les autres titres, cette situation très préoccupante en Polynésie française, le territoire durcit le confinement et ferme ses écoles pour 15 jours. La rentrée politique après les Verts la semaine dernière, c'est la semaine de la droite. L'Afghanistan et ses réfugiés arrivés en France, un soulagement mais aussi une douleur et un combat qui continue.
Les invités de la matinale à 7h45, elle est l'athlète française aux 8 médailles. Elle est aussi la présidente du comité paralympique et sportif français. Pékin était ses premiers Jeux, Tokyo seront ses quatrièmes et ses derniers. Marie-Amélie Le Fur au saut en longueur, catégorie simple et double amputée tibiale. Elle défend son titre, elle est au micro Inter depuis le Japon dans trois quarts d'heure. Et puis à 8h20 dans le grand entretien, Arnaud Fontanet, Bruno Lina, deux membres du conseil scientifique pour revenir sur cette deuxième rentrée scolaire qui se profile sous Covid. Faudra-t-il vacciner les plus petits? La troisième dose est-elle une priorité? Vos questions, chers auditeurs, on vous attend. 01 45 24 7000, le standard est ouvert ou sur l'appli France Inter.
France Inter.
Quand une soirée de football vire au chaos pathétique et désolant, c'était hier soir sur le terrain de l'Alliance Riviera pour un derby du Sud, Nice Olympique de Marseille. Tout démarre lorsque Dimitri Payet s'apprête à frapper un corner marseillais devant les ultras niçois. La suite avec Alexandre Vaux.
77e minute de jeu, Dimitri Payet s'effondre au poteau de corner. Il vient de recevoir une bouteille dans la nuque. Déjà pris pour cible par des ultras niçois, le joueur marseillais s'agace et renvoie deux bouteilles en tribune. Des dizaines de supporters pénètre alors sur la pelouse, s'ensuit une bagarre générale, trois joueurs marseillais dont Payet sont blessés. Le service de sécurité avec l'appui des CRS mettent de longues minutes à sécuriser le terrain, les équipes regagnent finalement leur vestiaire. C'est là que de longues discussions démarrent entre la préfecture, la Ligue de football et les clubs. Le président niçois Jean-Pierre River se rend lui auprès des ultras pour s'assurer que le match peut reprendre.
Calme absolu, reprise du jeu, par contre les Marseillais veulent apparemment entrer chez eux. Ils pensent avoir le match peut-être en difficulté sur le plan du score, mais il faut passer au-delà de ça.
23h15, le speaker du stade annonce la reprise du match. Les Niçois puis l'arbitre reviennent alors sur la pelouse, mais les joueurs de l'OM ne reviendront pas. Leur président, Pablo Longoria.
La sécurité de nos joueurs, c'est pas garanti. L'arbitre était avec nous. Et la Ligue avait décidé, pour en question d'ordre public, de faire reprendre le match.
23h50, après 1h30 d'attente, l'arbitre siffle la fin de la rencontre.
Alexandre Vaux, et à l'heure actuelle, les décisions concernant l'issue du match ne sont pas connues, même si une défaite de Marseille sur tapis vert se profile.
Confinement, couvre-feu, école fermée pour 15 jours, le Covid explose en Polynésie.
Début juillet, aucune hospitalisation. 6 semaines plus tard, 324 personnes à l'hôpital, un taux d'incidence de 2800 cas pour 100 000 habitants, l'un des plus élevés de France. La Polynésie est désormais submergée par le variant Delta, alors que le taux de vaccination est insuffisant et où il y a 70% de personnes en surpoids. Cécilia Arbonnat.
Les médecins généralistes de garde ce dimanche ont enchaîné les consultations, à l'image du docteur Laurent Beaucousin.
J'habite à Papara, donc la côte sud de Tahiti. On est débordé du matin jusqu'au soir. 50% de la population qui est en surpoids, au moins, avec un taux d'obésité record. Beaucoup de comorbidités. Il y a toujours des anti-vax qui ont peur du vaccin Pfizer en particulier. Et je pense qu'on a pris 3 mois de retard dans la vaccination. Et du coup, là, on se fait rattraper par la patrouille, quoi, clairement. Ouais.
La famille Ajuelos, propriétaire d'une bijouterie à Papeete, doit fermer boutique. Le patron, Albert.
Il n'y aura que les magasins d'alimentation ouverts. C'est une situation économique qui s'annonce désastreuse pour nous. Bon, on a eu des aides, c'est vrai, mais bon, ça suffit pas, quoi.
Nathalie, son épouse, est bouleversée par la situation à l'hôpital.
Comme on a 10 morts tous les 24 heures, ils vont installer 2 conteneurs frigorifiques pour mettre les personnes décédées. À l'extérieur de l'hôpital, on ne pensait pas que le variant du virus allait nous contaminer aussi rapidement. Hein. Franchement, on a le moral plombé d'être enfermé et puis la peur aussi.
98% des personnes décédées en Polynésie n'étaient pas vaccinées.
Cécilia Arbona, aux Antilles, situation sanitaire toujours très difficile. Plusieurs élus demandent de repousser la rentrée scolaire prévue le 2 septembre. La rentrée de tous les dangers dans l'Hexagone. 12 millions d'élèves doivent donc reprendre l'école dans 10 jours. Tous seront accueillis avec port du masque en intérieur et respect des gestes barrières. C'est le niveau 2 sur 4 des différents protocoles sanitaires qui a été retenu par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et vous nous en rappelez les contours, Sonia Princé.
Sur la vaccination, le ministre redit que des centres éphémères seront installés à proximité ou dans les collèges et lycées. Des équipes mobiles viendront vacciner les élèves volontaires. En cas de contamination dans une classe, au collège ou au lycée, seuls les cas contacts seront identifiés et renvoyés chez eux pour 7 jours. Ils suivront les cours à distance, sauf les élèves de plus de 12 ans vaccinés ou ceux qui ont eu le Covid au cours des 2 derniers mois, qui eux pourront tout de suite revenir en classe. Les parents devront simplement fournir une attestation et l'assurance maladie pourra contrôler le statut vaccinal de l'élève. Le but est de limiter au maximum le nombre de jeunes qui n'iraient pas en cours. À l'école primaire, en revanche, la classe entière fermera dès le premier cas de Covid. Pour les sorties scolaires, le pass sanitaire ne sera pas obligatoire pour les plus de 12 ans après le 30 septembre dans les lieux qui réservent des créneaux aux activités scolaires. Les piscines seront accessibles sans pass. Mais là où les élèves risquent d'être mélangés avec du public, dans les théâtres par exemple, ils devront présenter le pass sanitaire s'ils ont plus de 12 ans. Et pour rentrer dans les établissements, le pass ne sera pas exigé, ni pour les personnels, ni pour les parents.
Sonia Princé, c'est l'heure de la rentrée aussi pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État est de retour du fort de Brégançon. Déjeuner de travail ce lundi avec Jean Castex, le Premier ministre. Rentrée politique également à droite cette semaine. Discours de rentrée de Valérie Pécresse, la candidate à la primaire de la droite. Ce sera samedi à Brive-la-Gaillarde. Xavier Bertrand lui fera un premier déplacement médiatique ce mercredi. Et puis, les élus LR se retrouveront ce week-end à la Baule, excepté Laurent Wauquiez qui, comme chaque année, sera sur le Mont-Mézenc en Auvergne. Bref, Maxence Lambrecq, on rentre à droite dans le vif du sujet.
C'est l'heure de vérité, J-7 avant le lancement du grand sondage IFOP auprès de 15 000 sympathisants de droite. Quel est le meilleur pour la prochaine présidentielle? Bruno Retailleau, Michel Barnier, Laurent Wauquiez vont-ils finalement se lancer? Plus le temps passe, plus on en doute. À droite, Michel Barnier paraît le plus motivé, mais ce n'est rien par rapport à l'omniprésence de Xavier Bertrand cet été. À peine une semaine de pause, des tas de vidéos et de visites.
Ouais, c'est un éléphant derrière moi. C'est un éléphant. C'est les machines à Nantes.
Nous allons rencontrer un gars génial, Francky Zapata, dans les plaines du Vermandois. Ça fait des jours et des jours qu'il scrute.
Dans le journal du dimanche, hier, Xavier Bertrand s'affichait rassembleur. Je tendrai la main à Valérie Pécresse, à Laurent Wauquiez, comme à tous les autres. L'union, plus tôt on saura la faire, mieux ce sera. Pas la moindre attaque, car le premier qui dégaine a perdu, estime un ténor du parti. Cette semaine n'aura donc rien à voir avec la fin août 2016.
Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen?
Cette bataille, Fillon, Juppé, Sarko, reste un traumatisme. La droite va donc s'inspirer, pour une fois, des 5 candidats écologistes qui ont la semaine dernière critiqué une seule et même personne, Emmanuel Macron.
Maxence Lambrecq.
7h08, l'Afghanistan est toujours le chaos sur l'aéroport de Kaboul. Joe Biden pourrait bien faire marche arrière.
Oui, sous pression de ses alliés, le président américain ouvre la porte à un maintien des soldats sur place au-delà de la date prévue du 31 août. On en reparle dans le journal de 7h30, car les évacuations aériennes se poursuivent dans une atmosphère chaotique à l'aéroport de Kaboul. À ce jour, plus de 600 Afghans sont arrivés en France, rapatriés à bord d'avions militaires. Des Afghans qui n'arrivent pas à se réjouir pleinement, car pour beaucoup leurs familles sont restées à Kaboul et ils tentent par tous les moyens de les faire exfiltrer. Reportage de Faustine Calmel.
Même pour quelques minutes d'interview, Rada Akbar ne lâche pas son téléphone portable. Artiste, photographe, activiste afghane, elle est arrivée jeudi soir en France et se démène depuis pour faire sortir sa famille du pays.
Je deviens folle parce que je ne peux rien faire. J'ai essayé toute la nuit de contacter tous les gens que je connais, européens, américains, pour trouver un moyen pour que ma famille parvienne aux portes de l'aéroport et qu'elle soit prise en charge. Mais c'est un échec, je suis terrifiée.
Son frère a travaillé pour le gouvernement, sa sœur pour une organisation internationale. Ils sont, dit-elle, sur la liste des talibans. Cette liste qui effraie aussi Jamail, interprète dont le père communiste est menacé. Elle a obtenu pour lui l'accord des Français de le rapatrier. Elle montre le document, mais il ne peut rejoindre l'aéroport.
Je devrais me sentir bien, car Paris est une belle ville. Tout le monde veut venir ici. Mais non, je n'y arrive pas. À cause de ma famille, ils sont enfermés à la maison. Ils ont brûlé tous les documents qui pouvaient les mettre en danger avec les talibans. Je ne peux imaginer aucun futur tant que je ne sais pas ce qui va leur arriver.
Aucun repos n'est possible pour les deux femmes parties en catastrophe et qui voient le piège de cet aéroport pris d'assaut se refermer sur leurs proches.
Justine Kelmel, et il y a une autre région que Kaboul qui pourrait se retrouver prise au piège, c'est la vallée du Panjshir. Les talibans au pouvoir annoncent le lancement d'une offensive d'envergure contre la seule zone qui leur résiste encore, cette vallée du Panjshir, le fief du commandant Massoud tué par Al-Qaïda en 2001 et tenu aujourd'hui par son fils Ahmad Massoud. La tempête tropicale Henri sur la côte nord-est des États-Unis, un secteur d'ordinaire épargné par ce type d'intempéries. Plus de 100 000 Américains sont sans électricité.
Enfin, les 16e Jeux paralympiques démarrent demain à Tokyo.
Avec la cérémonie d'ouverture, à partir de 13h heure française, 138 athlètes français dans 19 des 22 sports au programme des sports Guillaume Batin, dont la majorité n'existe qu'aux paralympiques.
Il y a les classiques, l'athlétisme, le triathlon ou le cyclisme, les déjà vus mais toujours aussi impressionnants comme le tennis fauteuil ou le cécifoot pour les non et malvoyants, le très brutal et engagé rugby fauteuil et des sports très peu pratiqués en France comme la boccia qui veut dire boule en italien, un jeu cousin de notre pétanque nationale. Elle est réservée à des athlètes lourdement handicapés, physiques ou mentaux. Ils utilisent des boules en cuir projetées de la main depuis un fauteuil électrique dans une catégorie ou grâce à une baguette dans la bouche ou fixée sur la tête du joueur qui pousse la balle installée sur une rampe. Samir van der Becken est membre de l'équipe de France de boccia, la première qualifiée aux Jeux paralympiques.
La boccia, c'est ça, c'est un jeu d'échecs, c'est un jeu de construction. Et c'est celui qui va mettre vraiment en échec l'adversaire en premier, qui sera en bonne posture pour la suite du match. Mon assistant en fait est dos au jeu et m'aide un peu à, comme si c'était les mains. Et moi je lui dis tout ce qui est hauteur, enfin, en fait je suis le cerveau et lui c'est les bras. Et il ne peut pas tricher, il est obligé d'écouter tout ce que je lui dis. Il n'a pas le droit de regarder du tout le jeu, sinon c'est pénalité, c'est strict.
Sans oublier le tir à l'arc, le premier sport à l'origine des Jeux paralympiques en 1948.
Guillaume Batin, les Jeux paralympiques, c'est jusqu'au 5 septembre. Et on y revient dans Histoire de sport à 7h20 avec le portrait de Nantonine Keita, malvoyante, la fille de Salif Keita. La seconde moitié du duo des Everly Brothers s'est éteinte. Don Everly est mort samedi dans sa maison à Nashville à l'âge de 84 ans. Le duo a enregistré son premier disque en 57. Il chantait des mélodies de country de leur Kentucky natal, mêlées de rock, une musique qui a influencé toute une génération de groupes dans les années 60, à commencer par les Beatles, Simon & Garfunkel ou encore les Beach Boys. Tous étaient inspirés par les Everly Brothers de cette façon de chanter en harmonie. And all your charms whenever I want you. All I have to do is dream. Everly Brothers.
Voilà, et ça swing en harmonie. Le journal de Laurence Thomas. Le zoom dans une poignée de minutes. Cette semaine, on se glisse dans l'ombre de la présidentielle. Ce matin, dans l'ombre d'Emmanuel Macron.